Bonjour Rachid Alaoui, vous êtes socio-économiste et spécialiste de la question des discriminations raciales à l'emploi. Donc avant tout, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est une discrimination ?
Une discrimination, c'est une différenciation de traitement fondée sur un critère qui est prohibé dans une situation comparable. C'est-à-dire c'est quand on traite de manière inégale des personnes ou des groupes de personnes qui sont dans une situation comparable et que cette différenciation de traitement est fondée sur un critère qui est prohibé par la loi, là on est dans une discrimination qui est illégale parce qu'elle est interdite par la loi, il est illégitime parce qu'on n'a pas à prendre en considération des critères qui sont subjectifs tels que l'âge, tels que l'appartenance sexuelle, tels que le patronyme, l'apparence physique, l'état de santé, l'appartenance syndicale, la vie familiale, etc. Il y a 18 critères qui sont prohibés et qui figurent dans l'article 225-1 du Code pénal. Et quand on fait une différenciation sur ces critères-là, ben le Code pénal a prévu une sanction qui peut aller jusqu'à 3 années d'emprisonnement et 45 000 euros.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation actuelle en termes de discrimination, mais à l'emploi ?
Les différentes études mettent en évidence l'ampleur des discriminations. C'est-à-dire à compétences égales et à diplôme égal, si on est d'origine étrangère, si on est quinquagénaire, si on est handicapé, on n'a pas les mêmes chances d'accès à l'emploi. Exemple, il y a une étude qui a été menée par l'Observatoire des discriminations de l'Université de Paris 1 sur la base de 1082 CV. Donc, ils ont envoyé 1082 CV à 248 offres d'emploi. Ces CV sont identiques en termes de compétences. La seule différence, c'est un caractère subjectif. Alors, ils ont constaté que quand une personne relève de la cotorepelle un handicap, il reçoit 15 fois moins de réponses positives, à savoir une convocation à un entretien, qu'un homme qui est blanc de peau, qui est valide, qui habite Paris et qui a une apparence standard. Donc on voit que à compétences égales et à diplôme égal, un handicapé a 15 fois moins de chances. Et dans la même situation, une personne qui est d'origine maghrébine reçoit 5 fois moins de convocations à un entretien. Et une personne qui est même de couleur blanche, qui a un patronyme standard, qui habite Paris, et qui, la seule différence, il est quinquagénaire au lieu de trentenaire, il reçoit 3 fois moins de convocations à l'entretien. Donc on constate que dans l'accès au marché du travail, il y a des différences qui font la différence et on peut être pénalisé par son âge, par son apparence, par son patronyme, etc. Donc aujourd'hui, il est prouvé que les discriminations existent. La question, c'est comment agir contre ces discriminations et comment restaurer l'égalité de traitement.
Donc justement, vous nous dites comment agir. On sait qu'il existe une loi contre les discriminations, mais est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, dans une entreprise, comment les employeurs peuvent, eux, agir à leur niveau pour lutter contre ces discriminations ?
Alors, c'est vrai qu'il y a des lois qui interdisent les discriminations, mais je pense que les entreprises n'ont pas intérêt à attendre d'avoir des procès, voire des condamnations, comme c'est arrivé à plusieurs entreprises, pour prendre conscience. Ça veut dire qu'il faut travailler sur toute la procédure des recrutements, sur la gestion des ressources humaines, depuis donc la définition du poste, jusqu'à la fiche du poste, en passant par la rédaction de l'offre d'emploi pour que cette rédaction n'intègre aucun critère subjectif, que s'il doit fonder uniquement sur les compétences. Par exemple, on a des offres d'emploi, on dit pas plus de 35 ans, ça renvoie à aucun dispositif public de l'emploi et donc c'est interdit. Donc la rédaction de l'offre de l'emploi, le tri des CV, quand on reçoit des milliers de CV, quelle est la batterie, quels sont les critères et les indicateurs pour faire le tri ? Et je dois avoir les mêmes critères qui sont utilisés pour tout le monde. En passant par les entretiens jusqu'à la décision définitive du choix des candidats. Donc à travers toutes ces étapes, il faut avoir des instruments pour garantir l'égalité de traitement. Ça, c'est quand on est en train de recruter. Mais après, on peut partir du constat. C'est-à-dire, je peux me poser la question, comment se fait-il que j'ai peu de femmes, et surtout peu de femmes à des postes de décision? Comment se fait-il que j'ai pas de personnes handicapées? Comment se fait-il que j'ai pas de personnes à peu de personnes d'origine étrangère. Est-ce que c'est le fruit du hasard? Ou est-ce que la manière dont les offres d'emploi sont véhiculées font en sorte qu'il y a un certain catégorie du public qui se trouve exclu? Donc, comment travailler sur sa pratique professionnelle? Parce que, un, je vais éviter le risque judiciaire, et deux, je vais ne pas me priver des compétences à cause des différences réelles ou supposées.
Pour conclure, comment vous envisagez la situation dans le marché de l'emploi pour les prochaines années?
Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde constate qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre et qu'il y a de plus en plus de métiers qui sont tendus. Et donc, vous avez certains employeurs, certaines entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Et donc, ils sont amenés, de toute façon, pour développer leurs activités, à revoir leurs pratiques de recrutement. Donc, c'est une question de survie pour eux. Donc, c'est une question qui représente un enjeu important pour l'entreprise. Parce que la seule différence doit être quelle est la plus-value que apporte telle ou telle personne à la production des biens et des services. Donc, je pense que avec les mesures au niveau juridique, avec les incitations, avec la diffusion des bonnes pratiques, je pense que aujourd'hui, on peut espérer. Les entreprises vont être plus attentives à ces questions de prévention, de discrimination et d'égalité de traitement.